15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à ce que nous recherchons tous dans la vie, le bonheur. Notre invitée, la spécialiste du sujet, Florence Servan-Schreiber, nous donnera les clés pour l'atteindre enfin et surtout réaliser qu'il se cache parfois dans des petits détails du quotidien. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour aujourd'hui. Il va relayer un coup de gueule des addictologues, notamment, qui interpellent aujourd'hui les autorités pour qu'elles prennent plus en compte le rôle de l'alcool dans les violences conjugales. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des cheveux et surtout faire le point sur ces aliments, ou plutôt les vitamines et nutriments qui peuvent aider à les faire pousser un petit peu plus vite. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des enfants et des questions qu'ils nous posent parfois autour de l'anatomie.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Chantal, 63 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'avais une question, je voulais savoir si c'est dangereux de prendre des antidépresseurs à mon âge. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, bon, donc Chantal, elle a 63 ans, je ne sais pas pourquoi elle pose la question, elle ne nous dit pas si elle a un problème de dépression, j'imagine que ça doit être le problème, mais est-ce que la prescription d'antidépresseurs, parce que je pense que c'est ça le fond de la question, est-ce que chez le senior, la personne âgée, peut-être c'est plus risqué ou contre-indiqué, je ne sais pas.
Alors déjà, 63 ans, on ne va pas la considérer comme
non,
personne âgée.
Non, je n'ai pas dit ça. Hein,
après 50
dit,
ans, imaginons, senior, voilà. Là, on n'est pas du tout dans le cas de la personne âgée. En revanche, chez la personne âgée, c'est vrai qu'on a un problème, puisqu'on a des personnes âgées qui sont sous antidépresseurs alors qu'elles ne devraient pas. Et à contrario, on a des personnes qui devraient être sous antidépresseurs car elles ont une authentique dépression sévère, qui ne le sont pas. Et donc, on est entre les deux et malheureusement, parfois, il y a des effets secondaires lorsqu'on traite un peu pour rien.
Alors, pourquoi en France, justement, vous dites on est embêté, qu'on est si frileux? Est-ce qu'il peut y avoir finalement des risques chez le senior ou la personne âgée qui prend des antidépresseurs?
Alors, on sait que dans une dépression avec une forme mineure, c'est-à-dire une petite dépression, si on vulgarise les choses, on sait que le traitement n'est pas forcément efficace chez la personne âgée et qu'on va simplement l'exposer à des effets secondaires. Et le souci, c'est que d'un autre côté, si on prescrit un traitement et qu'il faut vraiment le prescrire, on sait qu'il y a aussi un risque d'interaction médicamenteuse parce que plus on vieillit, plus on a des pathologies et plus on prend des traitements. On peut prendre des traitements anticoagulants, des traitements
contre l'hypertension,
des traitements antalgiques qui vont jouer sur la mémoire. Et donc, on est entre la balance bénéfice qu'on aurait à donner à un traitement et le risque apporté par certains traitements. Si je vous donne un exemple tout bête, c'est que certains qu'on ne prescrit pas aux personnes âgées, on ne va pas rentrer dans les détails, peuvent donner de l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire faire une baisse de la tension artérielle, de la pression artérielle lorsqu'on se lève avec un risque de chute.
De malaise, donc.
Certains traitements peuvent entraîner de la confusion, parfois des troubles urinaires, une sécheresse buccale, bref.
Il y a des vraies
interactions et des vrais effets secondaires qu'on essaie de prévenir.
Alors vous disiez que le plus gros souci, surtout en France, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on laisse dans la nature sans traitement, donc par contre des seniors qui en auraient vraiment besoin. Donc,
oui, d'autant. Et ce qui est embêtant, c'est que pour la personne âgée, lorsqu'elle est déprimée, elle a un risque de passage à l'acte suicidaire bien plus important que le sujet jeune. Et on estime environ à 1700 morts par an par suicide chez les personnes de plus de 75 ans.
Ah oui, c'est
donc
énorme.
On sait que ces facteurs sont aussi majorés si on est une femme, on a plus de risque de dépression sévère, si on vient de perdre son conjoint ou sa conjointe, et puis certains facteurs socio-économiques, le fait d'être isolé, de ne plus être entouré, de ne plus avoir de contact. Je donne un exemple tout bête, on sait que les personnes qui sont institutionnalisées, donc qui vont aller dans une maison de retraite ou une maison de repos, ont 10 à 15% de risque de faire une dépression l'année qui suit leur institutionnalisation. Donc bref, il y a un vrai risque et souvent le facteur environnemental est très important.
Donc on retient quand même que chez les personnes effectivement âgées et qui ont besoin, parce qu'une dépression sévère, il faut prescrire effectivement des antidépresseurs, mais tout ça se fait évidemment avec le médecin. Merci beaucoup Jimmy, on passe à la deuxième question. Cette fois c'est Sophie, 33 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour docteur. En fait, je vous téléphone, je voulais savoir, je pense que je suis enceinte et est-ce que vous pourriez me dire si, à part faire des tests en pharmacie, j'ai des symptômes que je vais ressentir qui vont me le confirmer et me confirmer en fait que je suis bien enceinte parce que je le crois. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils et à très bientôt. Merci.
Alors, je pense qu'elle veut savoir quels sont les signes finalement qui peuvent faire penser à une grossesse. Bon, le test finalement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, oui, hein, pour le savoir. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des signes qui seraient peut-être communs à toutes les femmes pour savoir?
Alors, bon, voilà, le seul signe commun, c'est le retard de règles, oui, tout simplement. Mmh. Au-delà de ça, on sait que chaque femme peut avoir des symptômes différents. Donc, s'il ne faut en retenir qu'un seul, c'est le retard de règles qui conduit à une prise de sang ou un test pipi urinaire.
Mais est-ce qu'il y a quand même, au début de la grossesse, il y en a quand même plein d'autres qu'on connaît, les seins, les nausées par exemple.
C'est ce qu'on appelle les signes sympathiques de grossesse, qui sont pas du tout sympathiques, mais qui sont liés à l'activation du système nerveux sympathique. Donc ça va de la nausée, des vomissements, le reflux, les seins douloureux, la prise de poids, les œdèmes. Mais encore une fois, chaque femme n'aura pas forcément les mêmes symptômes. Donc certaines vont en avoir énormément, d'autres très peu.
Et oui, et ça arrive dans les premières semaines tout de suite, ces symptômes-là, quand on les a, je veux dire.
Alors certaines, c'est très vite. Dès quelques jours de retard de règles, elles sont au courant. Parfois, il faut attendre un mois ou un mois et demi avant d'avoir ces symptômes qui s'installent. Et puis certaines vont avoir des symptômes beaucoup plus tardifs, voire aucun symptôme.
Les nausées rapidement, c'est toutes les femmes ou c'est les plus fréquents quand même, hein?
C'est pas toutes les femmes, mais on sait simplement que lorsque le traitement ne marche pas, c'est qu'il y a non pas un problème psychologique, mais un problème d'angoisse particulier qui ferait qu'on aurait du mal à accepter la grossesse et qui fait que les nausées et les vomissements ne seraient pas sensibles à un traitement médicamenteux. Bref, si jamais vous avez des nausées et des vomissements et que vous êtes enceinte, faut consulter, il ne faut pas vivre avec. Souvent on dit que c'est qu'un trimestre. Je vous invite à vivre 3 mois dans les vomissements, c'est pas sympa.
On dirait que vous avez vécu ça.
Oui, ma femme, malheureusement, la pauvre, elle a subi ça.
Non, vous connaissez bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Sophie, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une alerte des addictologues concernant le rôle de l'alcool dans les violences conjugales. Et puis, on accueillera aussi notre invitée du jour, la spécialiste en psychologie positive, Florence Servan-Schreiber, avec qui aujourd'hui, on va parler du bonheur. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, la professeure du bonheur, Florence Servan-Schreiber. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez du rôle de l'alcool et des psychotropes dans les violences conjugales, parce qu'en fait, il y a des addictologues qui viennent d'interpeller les autorités sur le sujet. Pourquoi cette tribune ?
Eh bien, l'analyse des morts violentes au sein de couples survenues en 2018, et plus particulièrement des 121 féminicides publiés par la délégation d'aide aux victimes, montre que dans 81% des cas, au moins l'un des deux, qu'il soit auteur ou victime, est sous l'emprise d'une substance, alcool ou stupéfiant. Ce qui veut donc dire que l'alcool est un facteur causal majeur des violences envers les femmes.
C'est dingue ces chiffres, 80%, c'est énorme effectivement. Il y a vraiment donc des études qui corroborent ces tristes chiffres. Hein.
Exactement, alors c'est l'université de Buffalo qui s'est, non pas amusé, mais qui a pris des hommes à qui soit on donnait de l'alcool, soit un placebo. Et bien on s'est rendu compte que les personnes qui consommaient de l'alcool avait un risque majoré de violence envers leur conjoint dans les jours qui précèdent la consommation.
Qui précède la consommation. Comment ils peuvent être violents avant même d'avoir consommé.
Qui suivent la consommation. Et ils ont aussi recueilli 80 000 participants, 96 études, et le risque d'agression envers un partenaire intime est multiplié par 3 en cas d'abus ou de dépendance à l'alcool ou à une autre drogue. Bref, il est temps vraiment de s'attaquer à l'alcool pour justement peut-être limiter les féminicides ou les violences faites aux femmes.
Parce qu'on parle de ces féminicides, mais c'est vrai qu'on entend rarement ce rôle, effectivement, de l'alcool ou des psychotropes, parce que ça peut être d'autres substances. Hein. Quelles mesures, du coup, sont proposées par ces médecins aujourd'hui qui interpellent, du coup, je crois, la ministre de la Santé, Marlène Schiappa?
Exactement. Dans un premier temps, les mesures cherchent plutôt à connaître l'ampleur du phénomène. Donc, dans un premier temps, on cherche à faire un registre de suivi des violenciers à l'alcool et aux psychotropes, et puis une analyse précise, justement, des consommations d'alcool et de psychotropes sur les 212 homicides qui ont pu être commis entre 2014 et 2016. Et puis une étude de ce qu'on appelle la victimisation, c'est-à-dire que la prise d'alcool ou de drogue accroît aussi également le risque d'être agressé. Donc celui qui boit ou qui prend des substances peut agresser, et la personne aussi qui boit ou qui peut prendre des substances peut elle aussi être agressée du fait de sa consommation.
Non, oui, donc ça ne s'arrête pas. Et est-ce que l'État peut intervenir aussi ?
Alors du coup, il y a plusieurs propositions qui sont bien connues, qui peuvent être efficaces. Un, c'est augmenter le prix minimum de l'unité d'alcool, limiter le contrôle, en tout cas essayer d'augmenter un peu le qu'il y ait moins de marketing, notamment sur les réseaux sociaux, d'intensifier la promotion et justement les rôles que l'alcool pourrait avoir sur les jeunes. Ensuite, il faudrait des mesures envers les victimes, savoir qu'une victime devrait être accueillie correctement dans les commissariats, former le personnel, les addicts et les gens aux spécificités de l'alcool. Et puis, des mesures envers les consommateurs violents, avec ce qu'on appelle l'obligation de soins, qu'on entend souvent, mais qui est souvent peu pratiquée. Bref, il y a un chantier qui est en cours et j'espère que la ministre sera sensible à cet appel.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mouette, pour toutes ces précisions. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est Florence Servan-Schreiber. Elle est professeure du bonheur. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Le bonheur, elle est aussi l'auteur du livre « 3 kiffs par jour » disponible en poche chez Marabout.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors d'abord, à cette époque de l'année, le bonheur, la vivacité, c'est pas facile quand même. Déjà, il fait quand même un temps pourri en ce moment sur une bonne partie de la France. On va bientôt changer d'heure. Les vacances d'été, on a l'impression qu'elles sont quand même bien loin, ça y est, là, alors qu'on est que mi-octobre, fin octobre. C'est normal d'être un peu raplapla à cette époque de l'année, de dire bon, le bonheur là.
Non, mais c'est vrai que nous abordons la période intéressante parce que ce qui modifie notre impression, hein, je dis bien l'impression parce que ça ne modifie rien au bonheur en vrai, ce sont justement ces transitions comme ça, quand tout à coup il se met à pleuvoir alors qu'il faisait beau, il se met à faire froid alors qu'il faisait chaud. On a l'impression que les circonstances changent et que la manière dont on se sent va changer. En fait, pas tant que ça, mais oui, c'est normal quand on regarde dehors de se dire oh là là, c'est moins bien et d'être tenté de se laisser aspirer un petit peu par le c'est moins bien.
Mais la météo, ça a un fort impact. On est plus heureux, on a plus de bonheur à Marseille qu'à Paris, par exemple. Il y a plus de soleil.
Alors non. Les gens qui vivent au sud ne sont pas plus heureux que les gens qui vivent au nord. Et d'ailleurs, vous savez, quand on fait ces classements, il y a un classement mondial du bonheur. Pour l'instant, on est toujours au Danemark.
Ah oui.
C'est au Danemark que les gens sont plus heureux. Alors, on vous dit, mais il n'y a pas assez de lumière.
C'est pas là où il y a plus de soleil, pourtant. Hein,
non, ouais. Alors, il y a aussi pas mal de suicides. Enfin, oui, il y a tellement de facteurs que l'on va retrouver. Mais non, on n'a pas besoin de soleil pour être heureux.
Jimmy ?
Eh bien, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le bonheur, en fait ?
Le bonheur, c'est une perception personnelle de la situation dans laquelle on se trouve. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de définition, on ne va pas
universel,
dire...
Universel, on n'a pas le...
Non, parce qu'il y a du subjectif, il y a de l'objectif. Donc quand on mesure le bonheur d'un pays, par exemple, ce sont des mesures objectives. Quelle quantité d'arbres y a-t-il? Comment s'occupe-t-on des enfants? Quels sont les gardes d'enfants?
Jusqu'à quel âge finit-on? On peut pas le mesurer chimiquement en disant, tiens, elle est pleine de sérotonine, d'hormones d'amour, de machin. Et en faisant une prise de sang, on se dit, tiens, elle a du bonheur, lui, il n'en a pas. Non, ça, c'est pas possible.
Alors, en fait, la mesure du bonheur est toujours autodéclarative. Ça veut dire que je ne peux que vous poser des questions pour savoir si vous êtes heureuse ou heureux, il n'y aura aucun instrument qui ne me dira si vous êtes heureux ou non.
Florence Servan-Schreiber, on va poursuivre cette discussion sur le bonheur dans un instant, restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on passe donc en quelque sorte à la pratique. On vous dira sur tous les moyens, quels sont les moyens pour atteindre le bonheur. Et vous verrez qu'il se cache parfois dans des mini-rikiki détails de la vie quotidienne. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, le bonheur, il faut l'entretenir. Le bonheur, ça demande de l'entraînement. Et oui, on va vous dire comment. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la professeure du bonheur, Florence Servan-Schreiber. Alors, est-ce qu'on est tous égaux d'abord devant le bonheur, finalement ?
Nous sommes égaux devant rien du tout.
Ah oui.
Donc, bonheur compris. Alors, d'abord, il y a toujours évidemment des raisons un peu exogènes d'être heureux, les choses qui sont autour de nous. Mais même d'un point de vue tout simplement chimique, génétique, nous sommes tous différents les uns des autres. Et c'est vrai que la génétique a sa part aussi dans notre bonheur.
J'avais demandé des parents malheureux, donc qui ne vivent pas dans le bonheur, ça fait des enfants malheureux forcément qui ne vivent pas dans le bonheur, qui ne seront pas des gens qui vivent dans le bonheur ?
Alors là, il s'agit plus de l'éducation que des gènes, mais donc un parent heureux ne va pas garantir un enfant heureux parce que lui va avoir aussi ses propres mécaniques. Mais sur le plan vraiment physiologique, c'est vrai que génétiquement, nous ne sommes pas programmés exactement de la même façon pour éprouver le bonheur.
Jimmy ?
Le problème, c'est que le bonheur, ce n'est pas quelque chose de constant. On dit toujours qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait toujours que des hauts et comme une vie sans creux dans la vague ?
Là, il vous demande la recette parfaite.
Mais
hein, c'est
surtout
quoi
pas mais ce serait l'enfer. Parce que ce qui permet d'être heureux, c'est le contraste. Ce qui fait que nous éprouvons de la joie et du bonheur, c'est parce que nous connaissons le malheur. Sinon, d'être juste joyeux et vivre comme ça, dans une espèce d'état un peu folichant en permanence, on ne se rend absolument plus compte de rien. Et à ce moment-là, ça devient encore plus difficile d'être heureux si nous n'avons pas de difficultés. Alors que grâce aux difficultés, quand ça va un tout petit peu mieux, déjà c'est formidable. Et à ce moment-là, ça donne de l'énergie, on a envie que ça continue et on a envie de s'en sortir. Donc en fait, ce sont deux moteurs. Quand on est malheureux, on veut que ça s'arrête. Quand c'est bien, on a envie que ça continue. Ce qui est le contraire de tout ça, donc le contraire du bonheur, c'est quelque chose qui est au milieu, qui s'appelle l'apathie. et qui, cliniquement, je crois, s'appelle la dépression.
Bon, alors vous, j'imagine par contre que c'est un peu particulier. Vous êtes professeur du bonheur, donc vous devez être une vie tout le temps dans le bonheur, sans crenivague, hein, tout le temps.
Mais jamais, c'est, enfin absolument pas. C'est, les gens me demandent toujours ça, c'est marrant.
Vous avez toujours la banane et tout, on se dit, elle est toujours contente, alors, elle est toujours dans le bonheur.
J'ai la banane quand je viens vous voir, parce qu'en effet, c'est un tel plaisir de pouvoir parler de ça, mais j'ai une vie complètement normale. C'est-à-dire que comme vous, je vais me réveiller avec mes peines, mes difficultés, mes deuils, mes tragédies, mes doutes. Je suis une personne complètement normale. Et parce que peut-être je suis aussi habitée par un certain nombre de peurs, enfin tout comme nous le sommes, j'adore cette psychologie positive qui va aussi me permettre à moi de trouver des solutions pour que ça aille mieux.
Quand vous êtes dans le creux, ça vous arrive, bon ça va. Alors si même les professeurs du bonheur n'ont pas une vie que dans le bonheur, on est rassuré, Jimmy.
Et puis comment est-ce qu'on fait pour retrouver le bonheur ou le garder lorsqu'on fait face à des événements de la vie qu'on connaît tous ? La maladie, un deuil, un licenciement, une rupture amoureuse un peu difficile. Il y a un secret pour garder justement un peu la tête haute et essayer de ne pas couler ?
Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle être humain, qui consiste à éprouver des choses très difficiles et à pester, grogner, pleurer, s'inquiéter. Parce que quand il se passe quelque chose, quand il y a une rupture, bien évidemment, nous y sommes confrontés. Nous allons devoir traverser le tunnel. Mais c'est vrai qu'au bout du tunnel, on peut s'y prendre autrement. Et il y a beaucoup une question d'interprétation. Vous savez, dans notre capacité à être heureux, donc 40% est quand même génétique, hein, je tiens à le souligner. C'est-à-dire qu'il y a une aptitude dans le cerveau à générer, manufacturer ces fameux neurotransmetteurs, les endorphines, le cytocine, tout ce qui est en in, qui fait du bien qui fait du bien au cerveau. Donc, on n'a pas la même taille. C'est un gène, hein, 5-HTT, on n'a pas la même taille. Plus il est long, plus on en sécrète. Donc, plus on va être d'un tempérament joyeux. Plus il est court, moins on en sécrète. Bon. Ensuite, il y a les conditions extérieures. Donc, ça, c'est ce qui nous arrive. Donc, en effet, un deuil vient s'abattre sur nous. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas prévu, on ne peut pas l'éviter. Mais quand même, on va pouvoir se rebrancher, lorsque nous serons prêts, il y a quand même une phase de deuil, sur les meilleurs aspects de notre vie. Et là, volontairement, on peut braquer, et ça va compter pour la moitié quand même de notre capacité à être heureux, on va braquer notre attention sur les choses qui vont pouvoir nous faire du bien.
Et c'est ça que vous apprenez aux gens, parce que vous faites des ateliers justement du bonheur, et vous leur apprenez quoi ? Une espèce d'entraînement ? C'est comme le sport, le bonheur ?
Oui, on expérimente, parce que les questions conditionnent les réponses. Vous savez, si dans votre vie vous cherchez à voir tout ce qui va mal, bien sûr vous allez trouver tout ce qui va mal. Mais si tout à coup je vous propose de chercher, ne serait-ce que dans une journée là, qui a l'air pas terrible, ou vous savez pas très bien où trouver, quelque chose qui a été formidable, vous allez le trouver. Et donc en effet, en s'obligeant un petit peu, eh bien on goûte la différence que ça peut faire, et ça donne l'exercice nécessaire pour pouvoir continuer en dehors.
C'est votre technique, notamment des kiffs, on va en parler juste après, merci. Vous restez avec nous Florence Avant-Schreiber.
Europe 1.
Dans quelques minutes, le bonheur n'aura plus de secrets, presque plus de secrets pour vous, grâce à notamment au kiff, aux 3 kiffs par jour, méthode génialissime, hein, mise au point par notre invité qui consiste le soir, avant de vous coucher par exemple, à vous remémorer votre journée et à lister au moins 3 kiffs. Tout ça contribue au bonheur, on va vous expliquer tout, comment ça fonctionne. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la professeure du bonheur, Florence Servan-Schreiber. Alors Florence, je crois que pour être heureux, l'un de vos grands principes, c'est de soigner, c'est vous dites qu'il faut qu'on soigne en fait les relations qu'on a avec les autres. Ça veut dire quoi particulièrement ? Ça veut dire se concentrer uniquement sur les rapports avec sa famille, ses amis, ou c'est n'importe qui avec qui il faut soigner les relations ?
Alors, une source
son boulanger, son facteur.
Exactement. Son boulanger, son facteur, sa famille, ses amis, ses collègues, absolument tout le monde. On a beau tourner l'affaire dans tous les sens, à chaque fois qu'on essaye de comprendre ce qui rend les gens heureux à long terme, ce qui a donné du sens à leur vie, enfin absolument tout le temps, c'est toujours l'amour qui revient. Donc ensuite, on s'est demandé, mais est-ce que l'amour, ce ne sont que des relations romantiques ou des relations familiales ? Et non. En fait, ce qu'on appelle l'amour, c'est une interaction entre deux personnes pendant laquelle on se sent formidablement bien. Donc, on peut l'éprouver avec quelqu'un dans le métro qui va vous sourire, par exemple. Donc ça, c'est un moment tout à fait sympa.
C'est des micro-moments d'amour.
Un micro-moment d'amour. On peut rigoler avec son fils, c'est un micro-moment d'amour. On peut aussi être avec son chéri.
Aujourd'hui, là, vous en avez eu, vous, des micro-moments
d'amour? Oui, j'en ai eu un, par exemple. J'ai rigolé avec mon fils tout à l'heure. Ouais, c'était génial avant de venir. On s'est vraiment poilé. En se moquant d'ailleurs d'un texto reçu de sa grand-mère. Ça nous a beaucoup fait rire. Mais voilà, c'est un moment partagé, c'est une connexion. Et si on regarde bien, ces connexions, nous pouvons les avoir absolument partout.
Jimmy ?
Oui, ces micro-moments d'amour, est-ce que le mécanisme ne serait pas un peu hormonal qui ferait qu'on aurait certains un peu plus que d'autres?
C'est le docteur qui parle de savoir s'il y a des hormones partout.
Non, mais c'est exactement ça. Ce que vous décrivez est le cas. Parce qu'il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui est ma rockstar en psychologie, qui a identifié que pendant ces moments-là, nous sécrétons justement de l'ocytocine, qui est cette hormone de l'attachement, dit de l'attachement et du câlin. Et on pensait justement que cette hormone ne surgissait que lorsque l'on était avec des gens que l'on connaissait, que l'on se touchait, etc. Mais en fait, non. Il suffit de se parler, de passer un bon moment, peut-être comme nous le faisons là, peut-être que tous les trois, nous sommes en train de sécréter...
On a trois micro-moments d'amour en même temps, oui, là, c'est beau.
Parce que c'est ça qui est formidable, c'est qu'en plus, ça se vit à plusieurs. Mmh. Non seulement j'en bénéficie, mais la personne qui est en face de moi aussi. Donc, il y a un truc réciproque qui est absolument formidable.
Et alors, comment on fait quand on n'a pas d'amis? Parce qu'il y a quand même des gens, malheureusement, les pauvres, qui vivent dans la solitude absolue. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces gens-là pour les vivre quand même, ces micro-moments d'amour?
C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre le prince charmant
quand on est célibataire, par exemple.
Alors, déjà, quand on est célibataire ou quand on vit seul, etc., dès qu'on sort dans la rue, c'est une décision, en fait, de se dire, on peut se dire avant ce soir, j'aimerais en avoir vécu trois. Donc ça veut dire que je vais faire attention dans la manière dont je vais interfacer avec quelqu'un, je vais monter dans l'autobus, je vais dire bonjour au chauffeur en le regardant dans les yeux. On ne sait jamais, il va peut-être me répondre quelque chose qui fait que nous aurons une interaction, qui fait que je vais repartir avec la banane. Vous savez, quand on sourit dans la rue comme ça, qu'on est de bon poil, c'est parce qu'on vient d'en vivre un et ils sont imprévisibles, mais on peut quand même décider d'être ouvert à ça.
C'est pas la même chose que les kiffs, hein, on en parlera juste après. Les micro-moments d'amour, c'est d'autres choses et on les provoque en journée, hein, c'est ça?
Oui, alors en journée, la nuit.
Oui, hein, la nuit, si on est seul,
on peut appeler quelqu'un, si jamais. Non, en tout cas, ça suppose d'être avec quelqu'un d'autre, le micro-moment d'amour. C'est quelque chose, il faut être deux.
Et alors, les kiffs, justement, par contre, c'est quoi? Vous avez inventé le concept, la méthode, je sais pas. En tout cas, vous avez écrit un livre sur le sujet aussi qui s'appelle 3 kiffs par jour. C'est quoi vos kiffs? Comment on s'y prend pour voir tout ça et pour identifier un kiff?
Alors, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que le nommer comme ceci. Il s'agit, en fait, d'une émotion qui s'appelle la gratitude, que nous pouvons ressentir et qui consiste, quand quelque chose de chouette se passe, par exemple, cette interaction avec le chauffeur d'autobus, de se dire, oh là là, pour ça, merci. Parce que soit je laisse passer comme si ça ne s'était jamais produit, soit je me dis mais merci pour ça. Ça consiste à éprouver.
Et je dis merci à qui du coup?
Eh bien alors je dis merci soit à quelqu'un, si quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Je dis merci à la vie parce que parfois, tac, il se passe quelque chose et c'est génial. Le métro qui arrive en même temps que nous à Paris sur le quai, merci. Mais il y a plein de gens qui ne vont jamais se dire ça, qui vont juste regarder passer le métro sans s'arrêter. Ou alors, si on est croyant, on dit merci à quelqu'un là-haut. Mmh. Il faut juste se rendre compte de la quantité de merveilles qui proviennent de l'extérieur de nous. C'est ça la gratitude. Et alors, c'est une émotion qui est tellement incroyable qu'elle a des répercussions physiologiques sur notre système immunitaire. Et on s'est rendu compte que plus on éprouve de gratitude et plus on l'exprime, plus on va vivre longtemps. Et on est même arrivé à le quantifier puisqu'on sait qu'on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie simplement parce qu'on est dans cet état de reconnaissance, qui est de dire « Waouh, pour ça, merci, il arrête de pleuvoir, merci. »
Et donc juste le kiff, comme ça, vivre ses kiffs et les identifier. Donc vous, ce que vous proposez, c'est quoi? C'est le soir, on se pose,
oui,
et il faut en trouver 3. Pourquoi 3 d'ailleurs?
Parce que c'est une bonne dose pour s'entraîner, pour commencer, pour démarrer. Puis c'est pas trop intimidant, 3, mais une fois qu'on... C'est un muscle, en fait. Vous savez, notre cerveau, avant tout, s'intéresse au négatif. Le négatif fait toujours plus de bruit. Donc, si on ne fait aucun effort, on ne va voir que les trucs qui ne vont pas. Le fait que le métro est parti, qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais est-ce que j'ai vu le métro qui est arrivé en même temps que moi? Ou est-ce que j'ai vu le rayon de soleil? Donc, plus on le fait, plus on va percevoir ces moments-là. Et vous demandiez comment peut-on faire pour être plus heureux? Eh bien, plus ce muscle-là est entraîné, plus il va percevoir le meilleur.
Jimmy?
Et cette méthode de kiff pour les adultes, est-ce qu'on peut aussi les appliquer aux enfants? Et si oui, à partir de quel âge?
Alors, de toute urgence, puisque plus on commence tôt, plus ils seront capables de percevoir le meilleur autour d'eux lorsqu'ils seront grands. La manière dont ça se passe, le meilleur instant, c'est le soir. Alors, on peut faire ça à table quand ils sont un peu grands, c'est-à-dire à partir de 5 ans, 6 ans, on est à table avec eux. Et on peut faire un tour de kiff, où chacun va dire, alors les parents commencent en disant, bon ben voilà, moi aujourd'hui, je voudrais dire merci pour, tac, 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 on en a 3. Et puis, chacun va faire
fait
ça.
3.
Lorsque les enfants sont plus petits que ça, quand on les met au lit, on leur demande, c'est la dernière chose qu'on leur demande avant le dernier bisou, on leur demande quelles sont les 3 jolies choses de ta journée. Donc ça les oblige à aller le chercher, ça les oblige à les nommer, et vous savez à ce moment-là que vous êtes en train de créer ce circuit.
En plus avant de dormir, c'est parfait.
Juste avant de dormir, ça va améliorer le sommeil, ça va prolonger le sommeil, l'approfondir, etc. Donc on commence dès qu'on peut.
Et oui, la psychologie positive, si on commence dès l'enfance, en fait, on sait si ça fait des adultes plus heureux, on l'a étudié ça
Elle n'existe que depuis 20 ans, donc il faut aussi qu'on va voir quelles sont les répercussions. Mais il est évident que plus nous entraînons nos propres enfants et leur cerveau à percevoir justement les choses formidables qui se passent dans leur vie, c'est ce que nous avons tenté de faire avec nos enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont adultes, puisque tout ça a commencé il y a un petit moment maintenant chez nous. Et ce sont des adultes qui sont capables de se réjouir de leur vie. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que quand on voit en plus dans cette culture qui est la nôtre, qui consiste, enfin, il est très stylé d'être contre absolument tout. Voilà, plus on est contre, mieux c'est. On a quand même besoin de leur apprendre à percevoir aussi le soleil, donc à le voir passer, comme ça ils auront le choix. Ils feront exactement ce qu'ils voudront, mais au moins ils sauront le faire.
Jimmy ?
Et comment on fait en ce moment ? Parce qu'il fait moche, les enfants à la maison hurlent, ils crient, ils se battent entre eux quand c'est des frères.
Le week-end, c'est compliqué. Affreux en ce moment.
Comment on fait pour essayer de se créer une sorte de bulle de bonheur quand on ne peut pas trop sortir en ce moment ?
Jimmy est coincé avec trois garçons à la maison, vous imaginez ?
C'est la joie des vacances de la Toussaint. Tous les parents sont passés par là. Alors, je vais vous dire, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de faire ça sans écran. Parce que là, très naturellement maintenant, il suffit de placer quelque chose qui bouge devant leurs yeux et ils se taisent immédiatement. La seule chose connue, c'est une activité commune où tout le monde va faire quelque chose en même temps, où vous les regardez faire. En fait, c'est d'être avec eux. Quand ils font autant de bruit, c'est qu'ils ont juste envie que nous soyons avec eux. Et ce qui est pénible pour nous en tant que parents, c'est qu'en fait, nous sommes dans la même pièce ou dans le même appartement et on n'a pas tellement envie d'être avec eux, parce qu'on aimerait bien faire notre truc à nous.
Allez, prendre un bain tranquille, lire mon livre peinard, mais c'est pas possible.
Et donc, personne n'est heureux. Donc, même pour nous, si on a envie d'éprouver quelque chose
juste
de beaucoup plus sympa...
Juste qu'ils arrêtent d'hurler, quoi,
ouais,
en fait.
Hein, et ben, on s'intéresse à eux.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça se calme assez vite quand on se met par terre à faire un jeu de société. Finalement, on n'a pas envie au départ, et puis... Vous jouez aussi au jeu de société, Jimmy, avec les petits ?
Non, mais vous avez raison, c'est vrai, dès qu'on se pose avec, hier soir, il était un peu agité, je me suis assis 10 minutes avec lui, c'est 10 minutes simplement, on suffit à le calmer.
Et il se calme,
et puis après, il a été se coucher.
C'était un micro-moment d'amour.
Et c'est vrai, il était très content, vous avez raison. Ça tient à rien, en fait, pas grand-chose.
C'est tout petit.
Je sais que vous dites aussi que le bonheur, il passe aussi par l'assiette, parce qu'on mange. Est-ce qu'il y a des aliments vraiment comme ça qui nous rendent plus heureux que d'autres ?
Alors, les aliments qui vont nous rendre plus heureux sont d'abord ceux que nous aimons. Ensuite, il y a une petite croyance, avec l'hiver, on se dit « Oh là là, quand ça va pas, on a envie de manger des choses grasses, etc. » Alors ça, non, ça ne va pas fonctionner, malheureusement.
Il faut... Pourtant, la raclette, ça fait du bien, non ? Je sais pas.
Ouais, sur le moment, après, on la paye un peu, on dort moins bien. Non, vous savez, les aliments intéressants, alors, ce ne sont pas les plus excitants, mais ce sont tous les légumes verts. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent plus de vitamine B6. Et la vitamine B6 privilégie la fameuse sécrétion de ces neurotransmetteurs dans le cerveau, la sérotonine,
le cytosine, etc.
On cherche du vert, on cherche des choux, on cherche du cru, on cherche du cuit. Oui, mais on cherche du vert.
Les carottes, quand même, ça rend aimable, non ?
Alors, les carottes, plus que de rendre aimable, c'est démontrer, rendre sexy.
Ah.
C'est hyper intéressant. On a fait une étude comparative où il y a des gens qu'on a enduits d'autobronzant et puis il y a des gens auxquels on a fait manger des carottes pendant 3 semaines. Voilà, tous les jours, ils en mangeaient un petit peu. À la fin, on les prend en photo, on envoie les photos et on demande à des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de... Enfin, qui ne savent pas faire la différence entre les deux, de définir, choisir quels sont les visages les plus sexy dans les photos. Et ça a toujours été des gens qui avaient mangé des carottes. Donc, on est capable d'affirmer que les carottes rendent sexy.
Donc, du vert et des carottes
c'est
pour
ça.
Être heureux. Merci beaucoup, Florence.
Oui, parce que le sexe rend heureux.
Ah, aussi, très bien d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a plein d'outils pratiques et donc aussi des carottes, du vert. Il faut manger tout ça. Plein de trucs et astuces à mettre en place dès aujourd'hui pour tenter d'être plus heureux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 3 kiffs par jour, disponibles en poche chez Marabout. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux cheveux. Y a-t-il vraiment dans l'alimentation des produits qui peuvent aider à les faire pousser un peu plus vite ou au moins à les garder en forme, à avoir une belle chevelure ? A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des cheveux, de ce que l'on met dans notre assiette. Est-ce que ça a un impact finalement sur la vitesse à laquelle ils poussent? Y a-t-il des aliments qui contribuent à la bonne santé de notre chevelure? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Je sais pas du tout. Bon, peut-être les recettes de grand-mère.
Alors j'entends souvent que la levure de bière aide à la pousse des cheveux. En gélule ou la rajouter dans des salades ou des soupes, enfin, moi j'ai déjà fait ça.
Le lactose c'est bien.
Peut-être des recettes homéopathiques qui peuvent faire justement que les cheveux ne tombent pas ou tombent moins pour les hommes.
Il y a des compléments alimentaires comme ça qui font ongles, cheveux, cils, sourcils, tout ce qui peut pousser.
Peut-être la cannelle.
Je sais que l'huile de ricin c'est bon pour les cheveux.
Je pense qu'il existe des choses en pharmacie qui vont pousser les cheveux. Des crèmes ou quelque chose comme ça et aussi des choses par la voie orale.
J'ai entendu quelque part mais je suis pas du tout sûre. Je crois que les amandes mais je pense pas en plus.
J'ai l'impression que les ongles poussent assez vite, les poils, les cheveux aussi mais je sais pas si c'est dû à ça en particulier.
5 cm par mois, c'est déjà bien.
C'est pas quelque chose qui me préoccupe. La calvitie, ça m'a jamais hanté, donc qu'il y ait des cheveux ou pas, je crois qu'on est beau pareil. Hein.
Il a raison, vous n'avez pas beaucoup de cheveux, mais vous êtes bien quand même, Jimmy.
Oui,
pas de problème.
On a entendu plein de choses, hein. La cannelle, il manque plus que le kebab
là,
pour faire pousser
le kebab,
cheveux. Là,
les cheveux.
Aurait,
alors, monsieur qui a 5 cm par, de chevelure qui pousse par mois,
c'est...
alors ça, c'est vraiment hors norme, il faut vraiment qu'il nous dise ce qu'il mange,
réponse,
qu'il peut nous rappeler pour nous donner la recette. Parce que Jimmy, justement, on va reprendre quand même par là, la chevelure, en gros, chez tout le monde, je sais que c'est votre spécialité, vous les conseils beauté. Tes cheveux, vous allez nous dire, bon, alors je plaisante évidemment, mais les cheveux, on va dire d'un point de vue physiologique, ça pousse de combien à peu près tous les mois?
Alors, la vitesse de croissance du cheveu dépend de ce qu'on appelle le programme génétique, la programmation génétique. C'est ce qui fait qu'en fonction de l'individu et de l'ethnie, ben, on ne va pas avoir une pousse identique. Si on prend l'exemple de la personne caucasienne classique, le cheveu pousse en moyenne d'un centimètre par mois. Pour une personne de type africain, c'est 0,8 centimètres par mois.
Pas une grande différence.
Et puis,
mais...
la population asiatique, ce serait 1,5 centimètre par mois.
Ah oui, c'est plus
donc
long.
C'est un peu plus important, mais bon, on est loin des 5 centimètres.
Vous voyez, finalement, peut-être que l'alimentation, ça a un rôle, effectivement. On ne sait jamais, on ne mange pas tous pareil où on habite sur le globe, donc peut-être que, effectivement, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des aliments, justement? Alors, on a entendu de tout. Hein. Le paprika, non, c'est quoi? La cannelle, il y en a une qui disait.
La cannelle.
J'avais entendu parler de la cannelle, mais est-ce qu'il y a quand même des aliments, ou au moins des nutriments, des vitamines, qui sont bonnes pour les cheveux, quoi?
Alors, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a aucun aliment qui serait bon pour la pousse
prouvé
des cheveux.
Scientifiquement, quoi.
En
c'est
revanche,
ça.
On sait que, comme pour la peau, nos cheveux ont besoin en fait, d'être bien nourris pour avoir une croissance harmonieuse. Et donc, ils ont besoin de vitamines, de minéraux qui sont transmis par le bulbe, c'est-à-dire la racine du cheveu, et seule cette partie située sous l'épiderme est capable de lui apporter les nutriments nécessaires à sa croissance et à sa santé. Donc, il faut quand même avoir une alimentation riche et équilibrée pour avoir une pousse de bonne qualité.
Et alors, c'est quoi les nutriments vraiment essentiels pour les cheveux ou les vitamines, enfin les oligo-éléments, j'en sais rien, vous allez nous dire?
Alors, s'il faut retenir quelques-unes, on parle déjà de la vitamine B. Donc, la vitamine B qui favorise le renouvellement cellulaire au sein du follicule puleux, c'est ce qui stimule la pousse du cheveu. Et la vitamine B, où est-ce qu'on peut en trouver, Mélanie, à votre avis?
Oh bah j'en sais rien du tout. Dans les œufs, peut-être?
Oui, très bien. Les œufs, le céréal, le foie et la viande. C'est pas mal. On voit que vous progressez à mes côtés.
Mais
c'est
des beaux cheveux, vous avez vu. Hein,
ouais, c'est peut-être ça aussi. Les protéines aussi, parce que les cheveux sont composés de kératine. Et donc, c'est la kératine, c'est la protéine. Et donc, la protéine, on en trouve essentiellement dans la viande.
La viande,
mais aussi dans les poissons, les fruits de mer. Le zinc, on en a parlé.
Il n'y a pas longtemps. Pour la peau, il paraît que c'est bon pour la peau, mais c'est bon pour les cheveux aussi.
Exactement. C'est reconnu pour ses propriétés séborégulatrices et antibactériennes.
C'est pour ça qu'on en donne aux gens qui ont de l'acné. Donc
exactement,
c'est, bon,
c'est l'allié parfait pour la peau et aussi des cheveux. Et donc, le zinc, on en trouve essentiellement dans les huîtres, le foie de veau, bon, c'est pas terrible.
Non,
mais
les huîtres, ça c'est bien,
oui,
effectivement.
Quand on va arriver dans la saison. Et le germe de blé. Et enfin, le fer. On sait que les gens qui sont carencés en fer, qui ont une anémie, ont un cheveu de mauvaise qualité, A contrario, le fait de prendre du fer, ça favorise l'oxygénation des cellules et le fer permet donc la prévention de la chute des cheveux. Bref, un cheveu bien accroché, c'est un cheveu qui est riche en fer.
Qui est bien nourri, avec tout ce que vous avez dit de bon. Alors, est-ce que par exemple, le fait d'avoir des pellicules, ça ralentit peut-être la pousse des cheveux, je ne sais pas?
Oui, clairement, en fait, tout ce qui empêche le cheveu de pousser de façon saine.
Le cuir chevelu, en plus, parce que c'est par là que ça pousse. Hein,
exactement, donc un cuir chevelu qui est étouffé par le sébum ou les pellicules n'est pas forcément un cheveu sur lequel le terrain serait propice pour une bonne croissance. Donc à ce moment-là, il faut adopter un bon shampoing anti-pelliculaire qu'on peut trouver en supermarché
n'importe.
Ou parfois en pharmacie sur conseil de votre pharmacien.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des enfants et des questions qu'ils nous posent parfois autour de l'anatomie. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'une maman un peu inquiète, c'est Sabrina. Elle a 36 ans, je vous la lis. Ma fille de 4 ans parle beaucoup de zizi, elle ne me semble pas du tout perturbée. Pourtant, je m'inquiète. Aurait-elle vu, vécu ou entendu quelque chose qui soit à l'origine de ses propos fréquents? Alors Catherine, est-ce que Sabrina elle a raison de s'inquiéter? Est-ce que c'est normal ou pas à 4 ans de parler tout le temps de zizi apparemment?
Alors, d'en parler tout le temps, oui, bien sûr que c'est normal, puisque l'enfant vient de découvrir, il, depuis de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, vient de découvrir son appartenance sexuelle, son genre, et évidemment que se pose la question de mon genre et du genre de l'autre, et de ce que j'ai ou je n'ai pas, ce que je voudrais avoir ou pas, etc. Donc jusque-là, tout est normal.
D'accord. Et Jimmy ?
Surtout qu'elle ne semble pas perturbée, elle le dit bien, donc si elle en parle sans être angoissée, sans qu'il y ait de soucis, un enfant qui serait perturbé, qui aurait été traumatisé par une agression sexuelle, au contraire, il se tairait, il dirait pas grand-chose, non ?
Alors, déjà, quand les enfants parlent, en effet, vous avez raison, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, on a un livre qui est ouvert, et évidemment, à charge pour nous, parents, de pouvoir entendre, comprendre, et parfois entendre entre les lignes, puisque l'enfant ne parle que par images, symboles, répétitions, etc. Donc, a priori, elle n'a pas l'air perturbée outre mesure, mais effectivement, un enfant qui serait toujours dans une répétition, avec une sorte de recherche, une sorte d'anxiété, même, ou une sorte d'hyper-excitation, mais qui crée un relationnel un peu curieux, où bien évidemment qu'il faut se poser la question. Simplement, faisons attention de ne pas projeter nos angoisses de parents, parce que nos enfants, on veut les voir toujours en dehors du sexe, en dehors de la sexualité, et dès lors qu'ils se mettent à parler de sexualité, ça réveille nos propres problématiques, nos propres interrogations, nos propres pudeurs, ou nos propres histoires et brusqueries éventuelles de notre histoire personnelle.
Et à quel âge un enfant il commence vraiment à s'intéresser, enfin au moins à se questionner sur l'autre sexe? Là elle dit, donc c'est une petite fille, elle s'intéresse aux zizi des garçons apparemment, enfin elle en parle en tout cas. Mm-hmm. La physiologie du sexe opposé, c'est un passage obligé, je veux dire, à un moment donné il y a un choc, on découvre qu'on n'est pas, qu'il y a des filles et des garçons quoi.
Voilà, c'est pas un choc, c'est un éveil libidinal qui se fait aux environs de 2 ans et demi, 3 ans, et où du coup tout le rapport à l'autre passe par le biais de la sexualité. Quand on était petit, tout début, c'était par le biais de la bouche, donc toute interrogation passait par la bouche, la nourriture, mettre tout en bouche. Et puis alors je passe d'autres phases, la phase notamment au niveau de l'anus, au niveau de donc de la découverte de la propreté, et aux environs de 2 ans et demi, 3 ans, et bien effectivement il y a tout d'un coup un éveil, le corps est réveillé dans cette direction-là, ce qui fait que l'enfant s'interroge de ce côté-là et toutes ses acquisitions extérieures lui permettront de comprendre qu'il est garçon ou fille. Or, on ne comprend pas qu'on est garçon et fille en fonction de ce qu'on a déterminé, ce qu'ont déterminé nos parents pour nous. On ne le comprend pas parce qu'on se regarde, parce qu'il faudra avoir le regard extérieur et la lecture et la compréhension de l'extérieur pour comprendre ce qui se passe pour nous, mais on le comprend au travers du langage et notamment du pronom féminin-masculin qui nous fait nous attribuer, soit comme papa, soit comme maman.
Jimmy ?
Et puis elle a peut-être tout simplement des questions. Comment on explique aux enfants la différence entre les hommes et les femmes de façon simple ?
Alors, de façon simple, effectivement, c'est de se dire que nous, c'est parler du sexe, justement. C'est de parler
avec des photos, des livres imagés pour enfants, voilà, tu vois, ça, un garçon, c'est fait comme ça, c'est ça.
Alors, on n'est pas obligé, on peut, mais on peut aussi parler par le biais des symboles. On n'est pas obligé non plus de déshabiller papa, maman et toute la famille pour dire, voilà, ça sont les garçons, ça sont les filles, ou même les dessins qui sont peut-être parfois une brusquerie pour l'enfant, encore qu'à 2 ans et demi, 3 ans, pas du tout. Hein. Il est exhibitionniste et curieux et voyeur. Ceci étant, il n'est pas utile de nous nourrir l'excitation. L'enfant, il est normal qu'il soit excité, mais on ne doit pas nourrir son excitation, sinon ça créera des inquiétudes dans ce mélange des genres.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et on vous retrouve bien sûr demain pour une autre question sexo. Demain dans notre grand dossier, on va tout vous dire sur la fatigue, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Et oui, on peut être fatigué par son mari et ses enfants, on a le droit. Mais après, on fait comment pour s'en débarrasser de cette fatigue? On en parle demain, mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël. Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipée sauvage arrive avec un jeune homme qui va vous plaire. Mélanie, je ne vous dis que ça, il va vous plaire. Oh. Baptiste Le Caplain, il est drôle, il est beau, il est jeune. Restez avec nous.
On va rester. Merci beaucoup Mathieu. Bonne émission et surtout, restez sur Europe 1.